Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent, a dit le Seigneur Jésus. Préparons-nous à écouter la parole de Dieu en tournant dans nos Bibles à une première lecture en 2 Timothée 3, à la page 241 de notre Nouveau Testament. 2 Timothée 3, les versets 1 à 5, sera notre première lecture ce matin. Lecture que nous ferons après avoir prié. Notre Dieu, merci de venir à notre rencontre par ta parole ce matin. Merci de nous toucher par ta parole, jour après jour, qu'elle nous est précieuse. Merci d'intervenir dans nos vies, qui sont des vies parfois errantes et douloureuses, mais toi tu viens, tu descends, tu œuvres en nous par ta parole savoureuse et puissante. Merci de venir ce matin ranimer notre espérance par ta parole. Ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous puissions voir d'une manière nouvelle et puissante les merveilles de ton amour et que nous puissions être puissamment encouragés aujourd'hui. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Nous écoutons comme première lecture 2 Timothée 3, 1 à 5. Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. La deuxième lecture est en Colossiens 3, versets 15 à 17, à la page 229. Colossiens 3, 15 à 17. Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Amen. Dans un pays du sud de l'Europe, dans lequel les soins médicaux ne sont pas très bien couverts par les assurances maladie, un homme de 93 ans a été hospitalisé après un malaise. De l'oxygène lui a été administré pendant 24 heures et ça l'a soulagé de ses difficultés respiratoires. Après ce traitement, il s'est senti beaucoup mieux. Le médecin est venu à sa rencontre et lui a dit que ce traitement allait lui coûter 800 $. L'homme s'est mis à pleurer. Le médecin lui a dit qu'il ne devait pas pleurer à cause de cette facture, mais le vieil homme a répondu, « Je ne pleure pas à cause de l'argent que je vous dois, je vais vous payer, je peux vous payer. » La raison pour laquelle je pleure est différente. Ici, à l'hôpital, je dois payer 800 $ pour 24 heures d'oxygène, mais je respire l'air de Dieu gratuitement depuis 93 ans. Je n'ai jamais payé un sou pour ça. Vous pouvez me dire combien je dois à Dieu? Le médecin a été touché, le médecin a éclaté en sanglots à son tour. Nous autres aussi, nous respirons l'air gratuit de Dieu depuis bien longtemps. Nous n'avons jamais rien payé pour ça. Et ne convient-il pas de le remercier pour ça, oui, mais pour aussi toutes les autres bénédictions qu'il déverse sur nous? La prédication de ce matin va porter sur le thème de la gratitude que nous devons à Dieu. Voici l'ossature de mon sermon. Premièrement, nous allons voir que l'ingratitude est inexcusable. Deuxièmement, nous allons voir que la gratitude est un commandement libérateur pour nous. Et troisièmement, nous allons considérer trois leçons pratiques de ces vérités-là. Premièrement, l'ingratitude est inexcusable. En 2 Timothée 3, nous avons lu ceci. « Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront... » Et là suit une vingtaine de caractéristiques des hommes des derniers jours. L'une de ces caractéristiques au verset 2 est l'ingratitude. « Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront ingrats. » C'est quand les derniers jours? Les derniers jours, c'est une expression biblique qui se réfère au temps messianique. Ça veut dire que la période des derniers jours a commencé avec la venue de Jésus sur la terre et elle va se terminer avec le retour de Jésus. C'est une longue période. Cette période-là inclut les jours dans lesquels nous nous trouvons présentement. Il y aura des temps difficiles, dit Paul à Timothée. Des temps difficiles. Il y a des indices dans la Bible qui nous amènent à penser que plus on va arriver vers la fin des derniers jours, plus le torrent du mal va augmenter. En 2 Timothée 3, 1, le mot « difficile » est traduit ailleurs, le même mot est traduit ailleurs dans la Bible parfois par le mot « redoutable ». Par exemple, en Matthieu 8, Jésus parle de deux démoniaques qui sont redoutables au point où personne ne passe dans la région où ils se trouvent parce qu'ils sont terrifiants, ils sont redoutables. Alors, sache que dans les derniers jours surgiront des temps redoutables, car les hommes seront ingrats. En 2 Timothée 3, le mot « égoïste » qui, au verset 2, ouvre la liste de toutes ces caractéristiques des hommes des derniers temps, le mot « égoïste » est comme la clé de tous ces vices qui rendent notre monde redoutable. L'égoïsme est l'amour excessif de soi-même. En tant que chrétiens, nous croyons que le but de notre vie, c'est de glorifier Dieu. J'ai fait un exercice cette semaine, j'ai dit, je vais demander à Google quel est le but de la vie. Et la réponse qui est venue, le but principal de la vie est de grandir vers l'amour de soi-même. Il me semble que ça correspond tout à fait à la mentalité d'aujourd'hui. Les hommes seront égoïstes. Hier, j'ai entendu quelqu'un dire, « L'égoïsme, moi, j'ai ça dans le sang. » L'égoïsme et l'ingratitude, ça va de pair, ça va ensemble. Là où va l'un, l'autre marche à côté. Celui qui ne se préoccupe que de lui-même ne voit pas pourquoi il aurait à exprimer de la gratitude envers qui que ce soit, parce qu'il imagine qu'il mérite ce qu'il y a de mieux. Notre société ne cesse de nous dire que ce qui compte, c'est moi, ma vie, mes buts, mes rêves, mon plaisir, mes choses à moi, mon bonheur personnel, et que je mérite ce qu'il y a de mieux. Mais quand les choses ne vont pas comme l'égoïste l'espère, là, ça va moins bien. Il se plaint, il râle, il est mauvaise humeur, il rage, il explose et parfois même il lance, mais où est Dieu? Alors que tout ce qui lui arrive de bon, il ne pense jamais en attribuer le mérite à Dieu, mais qu'il lui arrive un pépin, quelque chose de désagréable, alors là, il se met à accuser Dieu. C'est étrange. Chaque jour, des millions de personnes se lèvent le matin, s'habillent, mangent, vont travailler, vont à l'école, reviennent le soir pour se distraire en famille, pour se reposer. Ils ne pensent pas à remercier Dieu. Il est arrivé dans ces journées que Dieu leur a évité 1000 problèmes, que Dieu les a protégés, secourus, mais non, on ne pense pas à remercier Dieu. Mais s'il arrive un pépin, où était Dieu? S'écrie-t-il. L'ingratitude est fille de l'égoïsme. Les hommes sont ingrats. La Bible nous enseigne que c'est un péché. Ce n'est pas un petit péché anodin, peu important. C'est un péché que Dieu lui-même qualifie dans sa parole d'inexcusable. C'est le mot de Dieu. Écoutez bien Romains 1, 18 à 21. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Ils ne lui ont pas rendu grâce. Donc, ils sont inexcusables. C'est le mot choisi par Dieu pour décrire cette attitude de l'ingratitude. Le bon Créateur est d'une générosité infinie. Il nous donne tout, la vie, le mouvement, l'être, la respiration. 1000 bienfaits. On devrait tous être continuellement en train d'exprimer à Dieu notre reconnaissance, mais ce n'est pas le cas. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, redoutables, parce que les hommes seront ingrats. C'était mon premier point. L'ingratitude est inexcusable. Deuxièmement, la gratitude est un commandement libérateur. Nous allons maintenant en Colossiens 3, à la fin du verset 15. Deux mots. Soyez reconnaissants. Et au verset 17, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce par lui à Dieu le Père. L'exhortation à la reconnaissance se trouve régulièrement, fréquemment dans les épîtres apostoliques. Et c'est une très bonne chose. Soyez reconnaissants. Ce n'est pas une petite suggestion, mais c'est un commandement du Seigneur qui est libérateur. Parce que vivre sous le poids de l'ingratitude et du mécontentement, c'est tout un fardeau. Il n'y a pas de bonheur là, à passer nos vies à maugréer contre Dieu, à être mécontent, à ronchonner, à grogner, à se plaindre. Quelle misère! Et le Seigneur, dans son amour, nous délivre de cette prison terrible de l'égoïsme et de l'ingratitude et nous appelle et nous amène à pouvoir mener une vie de reconnaissance joyeuse. Quelle libération! Dieu nous décentre de nous-mêmes et nous centre sur lui. Et c'est un grand bienfait pour nous. Le chrétien rempli de l'esprit est plein de reconnaissance et non pas de récrimination. Le chrétien rempli de l'esprit se dit « Personne dans le monde mérite Dieu moins que moi et personne dans le monde ne reçoit de Dieu autant que moi je reçois. Ça va toujours mieux que ce que je mérite. Dieu est tellement plein de grâce à mon égard, il m'accorde le salut, la vie éternelle, l'adoption, la sanctification, l'assurance de son amour qui ne faiblit jamais, l'espérance certaine des plaisirs éternels. Il remplit mon âme de joie, de paix. Il me donne la paix de la conscience. Il est tellement gracieux, tellement généreux, tellement bon que je veux, avec le psalmiste, dire et redire tous les jours de ma vie, loué soit l'Éternel. Je te bénirai et je louerai ton nom à toujours et à perpétuité. » L'apôtre Paul donc dit aux Colossiens, « Soyez reconnaissants. » Il écrit aux Éphésiens, « Rendez toujours grâce à Dieu. » Il écrit aux Philippiens, par la prière et la supplication, « Avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. » Il écrit aux Thessaloniciens, « En toutes circonstances, rendez grâce. » Est-ce nécessaire de se faire dire et redire fréquemment, « Soyez reconnaissants? » Oui, oh que oui, c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que dans les derniers jours, il y aura des temps redoutables. Et nous devons faire bien attention pour ne pas nous laisser influencer, entraîner dans les mauvaises voies d'ingratitude de notre monde. Lorsque Paul termine en 2 Timothée 3 la liste des vices qui vont caractériser les derniers jours, il dit à Timothée, « Éloigne-toi de ces hommes-là. » Autrement dit, ne te laisse pas influencer, ne te laisse pas mouler, façonner par eux. N'imite pas ces gens-là, ne va pas dans leur mauvaise voie. C'est un avertissement extrêmement important pour chacun de nous, encore aujourd'hui. Est-ce possible que l'ingratitude s'immisce dans la vie de l'Église de Jésus-Christ? Oui, c'est possible et on peut imaginer Dieu, là-haut, dans son trône, sur son trône, qui voit son peuple en bas, qui vit dans le mécontentement, les plaintes continuelles, l'ingratitude. Son peuple qui peut devenir semblable aux 9 lépreux. Où sont les autres qui ne sont pas venus remercier? Alors que nous avons été délivrés d'une maladie bien pire que la lèpre, la maladie, entre guillemets, du péché, combien nous devrions être continuellement débordant de reconnaissance envers le Seigneur. C'est pourquoi les épîtres pastorales répètent « Soyez reconnaissants, rendez toujours grâce à Dieu, en toutes circonstances, rendez grâce, faites tout sans murmure ni discussion, Philippiens 2, 14, etc. » C'est nécessaire pour nous d'entendre à répétition ces exhortations. L'ingratitude, souvenons-nous, était l'un des péchés principaux d'Israël dans l'Ancien Testament. L'Église de l'Ancien Testament se caractérisait par beaucoup d'ingratitude et de mécontentement contre Dieu. Le psaume 106 résume l'affaire de la manière suivante. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur. Ils oublièrent ses œuvres, la multitude de ses actes bienveillants. Ils murmurèrent contre lui. Ils provoquèrent l'indignation de l'Éternel. Alors qu'ils avaient été délivrés miraculeusement par ce Dieu si aimant et gracieux, ils oubliaient Dieu. Nous devrions être débordants de reconnaissance tous les jours. Parfois, nous sommes ingrats. En 2025, dans ces jours qui font partie des jours redoutables, où l'ingratitude à notre époque est très répandue, on a l'impression que la reconnaissance, la gratitude, c'est devenu comme un concept quasiment étranger dans notre société. À cette époque-là, donc, nous devons, nous, le peuple de Dieu, donner le bon exemple. Par notre vie, par nos paroles, par tout ce que nous sommes, nous devrions donner le bon exemple. Mais souvent, c'est l'inverse. On dirait que l'Église se fait entraîner dans l'ingratitude par le monde. Depuis l'entrée du péché dans le monde, l'ingratitude est là et il va y avoir des ingrats jusqu'au retour de Jésus, mais nous ne devons pas et nous ne voulons pas en faire partie parce que nous savons que ça attire l'indignation de l'Éternel, comme on le voit à plusieurs reprises dans la Bible. J'arrive à mon troisième point. Troisièmement, tirons trois leçons pratiques de ces vérités-là. Première leçon, chaque fois que nous prions, commençons toujours nos prières par la reconnaissance à Dieu. Seigneur, je te loue, je te rends grâce, je te remercie. Seigneur, nous te rendons grâce pour. Nous avons reçu un continent de bénédictions. Ne donnons pas à Dieu un minuscule îlot de reconnaissance si jamais nous y pensons à la fin de nos prières, mais commençons par la reconnaissance. Le pasteur écossais Alexandre White était connu pour ses prières édifiantes. Il trouvait toujours des façons d'exprimer à Dieu sa reconnaissance pour quelque chose. Un dimanche matin, où la température hivernale était épouvantable et minable, un membre de l'Église s'est dit « Sûrement qu'à matin, Le pasteur ne trouvera pas de raison de louer Dieu. C'est tellement épouvantable, cette température. Le pasteur a commencé sa prière. Seigneur notre Dieu, nous te louons et nous te rendons grâce. Qu'il ne fasse pas toujours aussi méchant dehors. Le pasteur avait trouvé une façon d'exprimer de la reconnaissance à Dieu. Nous avons mal à un orteil. Seigneur, merci pour les 9 orteils qui ne me font pas mal. Il y a des gens qui s'attristent qu'il y ait des épines après les roses. Nous, nous remercions le Seigneur d'avoir mis des roses avec les épines. Il y a des personnes qui disent, « Oh, j'aimerais tellement avoir telle sorte d'espadrilles ou de souliers à la dernière mode. » Mais un jour, ils voient quelqu'un qui n'a même pas de pied. Et là, ils sont reconnaissants. Toujours recommencer. Commencer nos temps de prière par exprimer à Dieu notre reconnaissance. Le pasteur Richard Baxter écrit, « Spécialement quand vous priez, assurez-vous que la plus grande partie du temps que vous prenez dans la prière soit faite d'actions de grâce, car Satan fait tout pour éteindre votre reconnaissance à l'égard de Dieu. » Le commentateur bien connu William Hendrickson dit, « Quand quelqu'un prie sans action de grâce, il coupe les ailes de ses prières et elles ne peuvent plus voler vers Dieu. » Alors, pensez-y pour vous-même. Quand vous commencez votre temps de prière, qu'est-ce qui sort en premier de vos bouches? Est-ce que c'est tout de suite 100 000 à l'heure, une cascade de requêtes à n'en plus finir, ou est-ce que c'est des paroles de reconnaissance, de gratitude? Seigneur, je te remercie. Commençons toujours nos prières par exprimer à Dieu notre reconnaissance, notre gratitude. C'est la première leçon ce matin. Deuxième leçon, par la puissance du Saint-Esprit, mettons à mort sans relâche l'ingratitude ou les restes d'ingratitude en nous. Le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 9, dit « Le mécontentement repose dans le sein des insensés. » Par une journée glaciale, un chrétien pelletait sa cour. Le facteur est arrivé et a demandé au chrétien comment il allait. Et le chrétien s'est mis à se plaindre de la neige et du froid. Il a demandé au facteur s'il trouvait ça pénible de travailler dans des conditions aussi décourageantes. Le facteur a dit, « C'est vrai qu'il fait froid, mais je suis content car j'ai un travail. Ce n'est pas le cas pour plusieurs. Je suis reconnaissant de travailler. » Et le chrétien s'est senti honteux et coupable de s'être plaint. C'est facile, quand il y a un désagrément précis dans notre vie, d'oublier tout le reste, toutes les autres bénédictions du Seigneur. Nous devons mettre à mort sans relâche toute ingratitude. La semaine passée, les médias ont fait connaître le résultat d'une grande enquête pour déterminer dans quel pays les gens sont les plus heureux au monde, sur 147 pays. La Finlande est arrivée en premier et le Canada au 18e rang. Nous sommes quand même un pays très choyé au 18e rang. Une autre enquête a dit que les Canadiens sont parmi les plus grands pleurnichards et plaignards du monde. Ils arrivent au 4e rang. C'est quand même étonnant. On trouve toujours la façon de maugréer, de se plaindre. Nous devons mettre à mort sans relâche toute ingratitude. Ne mordons pas la bonne main qui nous nourrit, qui est la main du Seigneur. Soyons reconnaissants. En réalité, l'ingratitude chronique révèle que le Seigneur n'est pas notre trésor, le trésor suprême de nos cœurs et l'objet principal de nos affections. La vie dans la reconnaissance est un bon indicateur de l'œuvre de l'Esprit-Saint en nous. Les chrétiens dirigés par l'Esprit vivent dans la reconnaissance qui s'appuie sur l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Alors que nous sommes entourés de gens qui se plaignent à faire des listes de tant de raisons pour être contre ceci ou pour se plaindre de cela, le chrétien, lui, dit comme dans la cantique, « J'ai des milliers de raisons de te louer. J'ai des milliers de raisons de te louer. » Troisième leçon. Prenons du recul et rajustons notre perspective. Ayons un autre regard sur la situation que nous vivons. Relativisons, comme on dit des fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenons l'exemple de l'assemblée chrétienne dans laquelle le Seigneur nous a placés. Est-ce une église parfaite? Non, ça n'existe pas. Il n'y en a pas, parce que les chrétiens sont des pécheurs. Il n'y a pas d'église parfaite. Chacun peut voir dans l'église des choses qu'il n'aime pas, qu'il aime moins, des raisons de se plaindre, des divergences d'opinion, des désagréments. Que faire? Prenons du recul et rajustons notre perspective. Ayons un autre regard sur la situation. Relativisons. Savez-vous qu'il y a dans le monde, à l'heure actuelle, au moins 380 millions de chrétiens qui sont sévèrement persécutés à cause de leur foi? Savez-vous qu'en 2024, des milliers de chrétiens se sont fait tuer à cause de leur foi? Savez-vous qu'en 2024, il y a eu au moins 7679 bâtiments d'église qui ont été attaqués et incendiés? La région d'Afrique subsaharienne est secouée par de nombreux massacres de chrétiens. Un pasteur et sa femme et ses 5 enfants ont été brûlés vifs. Dans beaucoup de pays, les chrétiens subissent dans leur vie quotidienne et sociale une pression épouvantable. Ils n'ont pas le droit d'avoir une Bible. Ils n'ont pas un égal accès à l'emploi et aux infrastructures publiques. Ils n'ont pas la liberté de culte. Ils sont condamnés à la clandestinité. Ils souffrent beaucoup d'isolement. Dans plusieurs pays, il y a un très haut niveau de violence contre les chrétiens. Depuis quelques années, je communique à chaque semaine avec un pasteur d'une église de 350 membres à Niamey, au Niger. Voici un petit extrait de son courriel de lundi passé. Depuis le dimanche 13 mars 2025, la situation sécuritaire est très préoccupante dans les localités frontalières du Burkina où sévissent les groupes terroristes. La plupart de nos églises sont dans cette zone-là et présentement, elles ne sont plus en activité. Tous nos pasteurs et fidèles ont été chassés. On les a forcés à choisir entre payer une rançon, renier la foi chrétienne et se joindre aux terroristes, quitter la zone sans prendre aucun effet, se préparer au combat en cas de refus, se faire tuer. Ils ont donc choisi de quitter leur village. Ils sont actuellement sous des hangars de fortune à la recherche d'eau et de nourriture. Comprenez-vous un petit peu ce que je veux dire par « prenons du recul, relativisons les choses ». Quelle importance revêt tel petit inconvénient que vous rencontrez ici, dans l'Église, comparé à ce que vivent nos frères et sœurs dans le reste du monde, dans les pays persécutés? Ne faut-il pas relativiser? Mais appliquons le même principe à notre vie conjugale et familiale. Prenons du recul. Rajustons notre perspective. Il n'y a pas de couple parfait. Il n'y a pas de famille parfaite. Il n'y a pas de conjoint parfait. Il n'y a pas d'enfant parfait. La Bible nous enseigne que Dieu nous a sauvés pour que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour que nous vivions pour Dieu et pour notre prochain. Mais quand la philosophie « moi d'abord » s'installe dans une famille, ça ne va pas bien. Quand Monsieur Nombril du Monde est marié avec Madame Centre de l'Univers, ça ne va pas bien du tout. Avez-vous des raisons de vous plaindre d'un membre de votre famille? Prenez un recul, réajustez votre perspective. Qui vous a mis ensemble? C'est le Seigneur. Votre époux ou votre épouse n'est pas à la hauteur de toutes vos espérances? Vos enfants ne sont pas comme vous vous y attendiez? La vie est moins passionnante que vous l'espériez? Quand allez-vous arrêter d'exiger la perfection chez les autres qui vous entourent? N'est-il pas possible de trouver plusieurs raisons d'être reconnaissant à l'égard du Seigneur pour votre situation? Le message du Seigneur pour nous aujourd'hui est très simple. Il se résume à deux mots. Soyez reconnaissants. Amen.